C'est un peu ambitieux, mais on va essayer de réfléchir un petit instant sur ce thème hein, qui nous est proposé de Saint Joseph, pèlerin de l'espérance. Alors pour commencer, je crois que ça peut être important de parler un petit peu de l'espérance et de définir un petit peu l'espérance. Qu'est-ce qu'on entend par cette vertu de l'espérance? Alors, depuis qu'on a commencé cette année jubilaire, hein, depuis le dernier dimanche de décembre, et puis même avant, le thème de l'espérance, vous l'avez peut-être déjà entendu, médité, vous avez peut-être lu des choses aussi sur l'espérance, mais c'est un sujet sans fin, et donc on peut toujours dire et redire des choses sur ce thème-là. Alors, pour parler de l'espérance, on peut faire une petite distinction avec une comparaison, en tout cas, avec le mot « espoir ». Il y a l'espoir et l'espérance. Alors, c'est un petit peu comme ça que j'ai l'habitude de présenter les choses. Alors, ça tombe pas très bien quand on est ici dans un sanctuaire dédié à Saint-Joseph de bon espoir. Parce que là, on est un peu dans la confusion, justement. Parce que, justement, l'intérêt de faire une distinction entre espoir et espérance, c'est de voir que l'espérance, c'est une vertu qui a plus de profondeur, qui est plus spirituelle. Mais ça voudrait dire que le nom de bon espoir ne lui irait pas très bien. Mais heureusement, dans bon espoir, il y a bon espoir, qui fait que on peut très bien comprendre ce titre de Saint Joseph de bon espoir comme l'équivalent de Saint Joseph de l'espérance, en fin de compte. Ce bon espoir, ce n'est pas l'espoir tel qu'on peut l'entendre communément dans le monde, mais ce bon espoir, c'est déjà signe d'une espérance et de l'espérance chrétienne, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, et c'est bien de cela dont il convient de pouvoir parler, une espérance vraiment chrétienne. Et donc, la distinction que je vais faire pour bien comprendre les choses, vous savez, quand on compare deux choses, ça nous aide à les comprendre, et bien de distinguer ce qui est de l'ordre de l'espoir et ce qui est vraiment une espérance, ou un bon espoir, pour le coup, si on veut conserver ce nom-là pour notre cher Saint-Joseph, ici à Espalie. Il faut déjà dire qu'il y a deux mots, espoir et espérance, mais il y a un seul verbe, espérer. On espère, que ça soit de l'espoir ou de l'espérance, c'est toujours espérer. Et c'est peut-être là qu'il y a une petite confusion, d'ailleurs. Mais, pour avancer un petit peu, je vous propose cette définition de l'espoir, pour commencer. L'espoir, ça pourrait être attendre raisonnablement l'obtention de quelque chose de bon. Voilà. J'attends d'obtenir quelque chose qui est bon. Quand on a de l'espoir, c'est qu'on attend quelque chose de bon, mais on l'attend raisonnablement. Un petit peu comme quelqu'un, un jeune qui va passer une épreuve, le bac par exemple, il a l'espoir de réussir son bac. Donc il attend, parce que c'est quelque chose de futur, et il l'a pas encore passé, donc c'est quelque chose de futur, et il attend quelque chose de bon, le bac, d'avoir des bons résultats, et il attend raisonnablement. Raisonnablement, c'est-à-dire que si on fait les choses comme il convient, si on y met quelques éléments positifs, eh bien l'espoir ne sera pas déçu. C'est un petit peu comme une sorte de probabilité, quoi, un calcul de probabilité. Si si on travaille normalement, eh bien il est raisonnable, il est probable d'obtenir son bac et on a l'espoir d'obtenir ce résultat et donc d'obtenir cet objet que l'on vise. Voilà. Ça serait un petit peu l'espoir. Alors l'espérance, je vous propose une définition un petit peu différente, va nous permettre de bien comprendre de quoi il s'agit. Espérance, ça serait de désirer avec confiance de voir se réaliser une promesse. Voilà la définition que moi je proposais pour le mot espérance. Désirer avec confiance de voir se réaliser une promesse. Alors, vous voyez, on peut mettre les mots en parallèle maintenant entre espoir et espérance. L'espoir, c'est une attente. Bon, on attend. Mais l'espérance, c'est un désir. Le désir, c'est quelque chose de plus profond, qui engage un peu plus notre personne, notre cœur, l'amour qu'il y a au fond de nous-mêmes. Et puis, on attend de se voir réaliser, on désire, dans l'espérance, voir se réaliser une promesse. Ah, la promesse, ce n'est pas simplement quelque chose de bon, quelque chose de plus important. On va y revenir. Et surtout, la grande différence, c'est que dans l'espérance, on désire avec confiance. Alors que dans l'espoir, c'est quelque chose de raisonnable, de probable. Pourquoi c'est différent et pourquoi c'est important? Parce que le mot confiance, ça change beaucoup de choses. Dans l'espérance, il y a vraiment une confiance que l'on met dans ce que l'on espère obtenir, dans l'objet de cette espérance. Et c'est là où il faut approfondir cette notion de confiance. C'est que la confiance, la racine du mot confiance, bien c'est la foi. C'est-à-dire que dans l'espérance, il y a un acte de foi. Il y a un acte de foi. Et c'est là où on voit déjà que espérance et foi sont liées. Déjà, le pape Benoît XVI, dans une de ses encycliques, la première, je crois, Spe Salvi, il avait fait ce parallèle entre foi et espérance pour dire que l'espérance chrétienne suppose et nécessite un acte de confiance et donc un acte de foi. C'est aussi ce que, en théologie, on peut remarquer en parlant de la définition de la foi, quand on reprend la définition de la foi qui est dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, au début du chapitre 11, on nous dit que la foi est une façon de posséder ce que l'on espère. La foi, c'est une façon de se posséder ce que l'on espère. Parce que ce que l'on espère, c'est quelque chose de lointain. On espère le royaume, on espère être sauvé, on espère la rencontre avec le Seigneur, on espère le royaume de Dieu, on espère voilà quelque chose de bon, mais quelque chose de futur. Mais par la foi, ce qui était futur devient une réalité présente. Parce que la foi rend présent ce qui est espéré. Et vous voyez, quand on retourne cette phrase de l'autre manière, ben, l'espérance, c'est désirer quelque chose avec une grande confiance et avec la foi. Pour dire que les deux choses sont liées l'une à l'autre. Donc, voilà, de bien penser l'espérance et la foi en même temps. Après, je vais m'arrêter sur le mot désir, je l'ai prononcé, désirer. Désirer une chose, c'est pas simplement l'attendre, comme je disais. Désirer, ça suppose vraiment quelque chose qui est au fond de nous-mêmes. On désire le retour d'un enfant, on désire rencontrer la personne aimée. On désire vivre une expérience profonde, forte. Voilà, ça va bien au-delà d'une simple attente. C'est pas simplement attendre l'arrivée d'un train. Hein, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond, le désir. C'est ce désir dont il est question dans les psaumes. Quand on dit que « Tout mon désir est devant toi, Seigneur », dans le psaume 37, c'est ce qu'il y a au cœur de l'homme, quand dans le Cantique des Cantiques, on nous parle de l'amour, l'amour qui est fort comme la mort, la passion, implacable comme l'abîme, ces flammes sont des flammes de feu, fournaises divines, les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleuves l'emporter. Voilà, cet amour, ce désir, eh bien c'est cet élan de la personne, ce dynamisme intérieur, ce qui nous permet d'avancer, ce qui nous pousse vers l'avant, ce qui nous pousse vers la vie. Et donc, voilà, c'est le mot désir contient tout cet amour, et c'est cela qui est à la racine de notre espérance. Et donc, le désir, il est lié à l'amour, comme je le disais. Et donc, l'amour, c'est cette vertu de charité que l'on essaye de mettre en œuvre, et l'on voit à ce moment-là que entre espérance et amour, il y a aussi un lien, une passerelle à faire pour bien comprendre ce dont il s'agit lorsque l'on parle d'espérance. Et de la même manière qu'on ne peut pas, comme je le disais tout à l'heure à propos de la confiance, séparer espérance et foi, on voit qu'on ne peut pas non plus séparer espérance et charité. Et on retrouve bien à ce moment-là, vous voyez, les trois vertus théologales, foi, l'espérance et la charité. Les trois sont liées les unes avec les autres. Ce sont des concepts un petit peu trinitaires. Hein, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on ne peut pas les penser totalement séparés les uns des autres. On peut penser l'amour du Père, on peut penser la venue du Seigneur, l'habitation de l'Esprit-Saint dans nos cœurs, mais en même temps, les trois forment une unité, l'unité d'un seul et même Dieu. Et il en va de même entre l'espérance, la foi et la charité. Il y a une unité parce que c'est toujours un désir confiant, bien de voir se réaliser cette promesse, c'est-à-dire ce que Dieu veut pour nous. Et donc, quand on voit l'objet de l'espérance, c'est bien une promesse. C'est ce que Dieu veut pour nous au commencement de toute chose, parce que dans la Bible, dans la parole de Dieu, tout est promesse de Dieu. Dieu a commencé avec Abraham en lui faisant une promesse, la promesse d'une descendance, la promesse d'une terre, la promesse de cette terre promise, une descendance nombreuse. Et l'histoire du peuple de Dieu, c'est de voir se réaliser cette promesse. Le peuple de Dieu, c'est un peuple qui vit dans cette espérance, cette longue marche du peuple de Dieu vers la réalisation de cette promesse, parce que il a foi dans le Seigneur et parce que il se sait aimé par le Seigneur. Et l'on retrouve ainsi toujours cette même trilogie de foi, espérance et charité. Ainsi donc, au cœur de la Bible, au cœur du message de l'Évangile, il y a cette réalisation attendue d'une promesse. Cette promesse qui est parfois la promesse de quelque chose de difficilement imaginable, même de parfois d'impossible. Bien, quand un ange vient annoncer à une jeune fille vierge qu'elle va avoir un enfant, c'est une promesse, qui a tout d'impossible, mais parce que en Dieu tout est possible, alors l'espérance, elle aussi, devient possible, parce qu'on a foi dans le Seigneur, parce qu'on aime le Seigneur et qu'on se sait aimé du Seigneur, alors notre espérance peut prendre corps, peut prendre réalité. C'est là où on peut reprendre et méditer un petit peu un certain nombre de phrases qui nous viennent de saint Paul. Tout à l'heure, dans l'Évangile, ce matin, on a pu entendre cette phrase de saint Paul où il disait que l'on peut espérer contre toute espérance. Vous voyez, quand il y a des choses qui sont difficiles à obtenir, difficiles à imaginer, où on se dit, mais est-ce que ça vaut le coup encore d'y croire, comme on dit, d'attendre telle ou telle chose, de désirer telle ou telle chose? Bien, c'est justement là, à ce moment, que l'espérance prend tout son sens. Et c'est ce que veut dire saint Paul lorsqu'il parle justement bien d'Abraham, pour revenir sur ce qu'on a pu dire ce matin, qu'il a espéré contre toute espérance. C'est-à-dire que même dans les situations les plus impossibles, Dieu peut agir, et c'est ça qui donne tout son sens à cette vertu de l'espérance. Et puis bien sûr, l'espérance, c'est quelque chose qui ne peut que nous être donné. C'est là où on voit, parce que comme c'est impossible, comme c'est le projet de Dieu est parfois impossible à atteindre pour l'être humain, alors si on espère, c'est que cette espérance nous vient de Dieu. Et c'est cela que dit saint Paul aussi, toujours dans la lettre aux Romains, quand il dit que l'espérance ne déçoit pas. L'espérance ne déçoit pas. C'est la phrase qu'a choisie le pape François pour introduire son texte sur le jubilé que nous vivons, hein, cette bulle d'indiction, où il commence par dire que l'espérance ne déçoit pas. Cette promesse de Dieu qui pourrait nous paraître impossible parce qu'elle est au-delà de nos forces, au-delà de nous-mêmes, eh bien parce que nous avons reçu cette espérance comme une promesse qui nous est faite, alors nous pouvons y croire et nous pouvons espérer sa réalisation. Voilà. Et derrière une promesse, il y a quelqu'un. C'est toujours quelqu'un qui fait une promesse. Donc si on met ce mot de promesse dans le mot de l'espérance, l'espérance, ce désir confiant de voir se réaliser cette promesse, ça veut dire que l'on a confiance en quelqu'un. C'est que l'on a une espérance en quelqu'un. Ce n'est pas une espérance dans un objet, ce n'est pas une espérance dans une théorie, ce n'est pas l'espérance dans une doctrine, c'est l'espérance dans une promesse qui nous est faite par quelqu'un. Et ce quelqu'un, bien sûr, c'est le Seigneur qui est à l'origine de cette promesse et qui est à l'origine du don de cette promesse. Et c'est pour cela, bien que l'on peut comprendre que l'espérance, c'est quelque chose qui nous est donné, une vertu théologale, c'est toujours donné par Dieu, c'est pas nous qui pouvons espérer tout seul, hein, c'est parce qu'on reçoit cette vertu du Seigneur, bien que l'on peut commencer à espérer, de la même manière que la foi nous est donnée, si l'on croit, c'est parce que ça nous est donné par le Seigneur, et de la même manière que l'amour, c'est parce que nous avons été aimés en premier par le Seigneur, que nous pouvons nous aussi aimer. Et donc, vous voyez, ces trois vertus-là, elles procèdent de la même manière, elles nous viennent de Dieu, c'est Dieu qui en a l'initiative, et nous, nous en sommes les dépositaires, et parce que c'est au-delà de nos forces, nous croyons qu'elles nous sont données, alors nous pourrons les mettre en œuvre. Nous pourrons mettre en œuvre notre foi, nous pouvons mettre en œuvre notre amour, et de la même manière, nous pouvons mettre en œuvre notre espérance. Voilà, un petit mot sur l'espérance, sur cette notion d'espérance. On peut garder cette définition dans notre tête, désirer avec confiance, voir se réaliser une promesse. Alors maintenant, on va essayer d'appliquer cette définition à Saint-Joseph, parce que c'est lui qui nous intéresse. Saint-Joseph, ce pèlerin de l'espérance. Alors, pour illustrer cette notion d'espérance appliquée à Saint-Joseph et voir comment lui peut être ce pèlerin, on peut reprendre les éléments de sa vie. On ne sait pas forcément énormément de choses sur la vie de Saint-Joseph, mais on sait que on a pu le qualifier de l'homme au songe. Parce que Saint-Joseph, c'est quelqu'un qui a des songes. Il rêve, et dans ses rêves, Dieu lui parle. Tout à l'heure, quand on est monté à la statue de Saint-Joseph, on a relu l'évangile de l'Annonciation faite à Joseph. Quand l'ange Gabriel a annoncé à Marie la naissance de Jésus, eh bien, il est écrit dans l'évangile que Saint-Gabriel est apparu à la Vierge Marie. Mais par contre, pour Saint-Joseph, il a un songe. Ce n'est pas une apparition, c'est un songe. Et quand on relit ces passages, eh bien, on entend ce songe. Mais il n'y a pas que l'Annonciation à Joseph où il y a ce songe. Il n'y a pas que l'épisode de l'Annonciation. Il y a deux autres passages où il y a des songes. C'est le songe que Saint-Joseph va avoir juste après la visite des mages, lorsque les rois mages sont venus d'Orient pour apporter leur présent devant l'enfant de la crèche, eh bien, il est dit qu'ils sont venus se prosterner, offrir leur coffret, mais que après ils sont repartis par un autre chemin, parce qu'évidemment, ils craignaient la violence du roi Hérode, qui avait promis de faire mourir tous les enfants innocents pour éviter qu'il ait un concurrent pour le trône, eh bien, il est dit que Joseph eut un songe, et en songe, Dieu l'avertit, eh bien, de prendre l'enfant et de quitter Bethléem pour aller se réfugier en Égypte. Ça, c'est le deuxième songe que Saint-Joseph a vécu. Et enfin, il y a encore un troisième songe, c'est justement quand il est en Égypte, eh bien, une fois que Hérode est mort, Dieu, dans un songe, avertit Joseph pour lui dire « Bien maintenant, tu peux revenir en Israël. » Alors, si l'on prend ces trois songes, ils ont évidemment quelques traits communs, et ça va nous aider à comprendre de quelle manière Joseph a été ce pèlerin de l'espérance, cet homme de l'espérance. Alors déjà, dans l'Annonciation faite à Joseph, lorsque l'Esprit du Seigneur, en songe, vient à parler à Joseph, pour l'interpeller et pour lui dire « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Alors tout cela doit arriver, et puis l'ange précise qu'on donnera le nom d'Emmanuel à cet enfant, ce qui se traduit par Dieu avec nous. Alors, quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Et puis, après, il lui donna le nom de Jésus. Il prit chez lui son épouse. Si l'on regarde dans les deux autres songes maintenant, la fuite en Égypte, à ce moment-là, il est à Bethléem, et puis après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » À ce moment, Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte. Puis enfin, le troisième songe, lorsqu'il va revenir à Nazareth, eh bien, il est écrit, toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, « Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. À chaque fois, il y a la même phrase, la même construction, on pourrait dire. Une fois que l'ange a annoncé à Joseph la naissance de Jésus, eh bien, il est écrit que Jésus prit Marie, prit sa mère chez lui. En Égypte, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte. Pour retourner à Nazareth, il prit l'enfant et sa mère et il entra dans le pays d'Israël. Alors, donc c'est cette phrase-là qui va m'intéresser un petit peu, cette phrase où l'on voit Joseph qui prend l'enfant et la mère pour accomplir une mission. Il prit avec lui l'enfant et la mère. Alors bien sûr, prendre Marie chez lui, prendre l'enfant et la mère, c'est le signe du protecteur. C'est Joseph qui vient protéger Marie, qui vient protéger la Sainte Famille, l'enfant, d'un danger, et qu'il prend ainsi sous sa protection en père nourricier, en père protecteur, qui était Saint Joseph. Mais je crois qu'il y a quelque chose de bien plus profond, de bien plus grand dans cette petite phrase. D'abord, il y a le fait de se lever. Joseph se leva. Il se lève. Le fait de se lever, c'est un petit peu un signe. Déjà, on se redresse, on se met debout, on sort de la nuit, on sort des ténèbres, on se relève pour aller vers le jour, vers la lumière. C'est un acte de vie, un acte de conscience qui se définit ainsi en se relevant. Et puis, prendre Marie, prendre l'enfant et la mère, c'est le signe de l'alliance. Et pour moi, la propre de Saint Joseph, c'est celui qui va être pénétré, transpercé, on pourrait presque dire, par cette espérance en l'alliance. Voilà. Joseph, c'est celui qui espère dans cette alliance avec le Seigneur. Vous voyez, le thème de l'alliance, c'est le thème qui traverse un petit peu toute la Bible, tout l'Ancien Testament. Cette alliance avec le Seigneur, cette alliance qui est recherchée, qui est parfois perdue, qui est parfois trahie. Ce peuple qui murmure contre le Seigneur, qui se révolte contre le Seigneur, et puis qui se retourne aussi après vers le Seigneur parce que eh bien, il s'est aperçu qu'en se détournant de Dieu, eh bien, il ne lui arrive que des malheurs. Alors, il se retourne vers le Seigneur et il renoue les fils de l'alliance. Donc, pour moi, cette phrase-là, prononcée par Joseph, enfin, le fait de prendre avec lui Marie et l'enfant, c'est ce désir de faire alliance et de concrétiser cette alliance. L'alliance, c'est la promesse de Dieu avec l'humanité. C'est la promesse de l'alliance faite avec Abraham, pour que justement Abraham puisse avoir cette terre promise. C'est la promesse faite à Moïse à travers le don de la loi, que le peuple de l'Alliance, justement, puisse entrer en terre promise. Et cette alliance qui est toujours renouvelée et recommencée, et qui n'arrive jamais à être parfaite et définitive, eh bien, c'est avec la nouvelle alliance, avec Jésus-Christ, qu'elle va pouvoir eh bien se réaliser d'une manière parfaite, parce que Jésus est celui qui va être à l'origine de cette nouvelle alliance, cette alliance entre l'homme et Dieu. Jésus, dans sa propre personne, il est à la fois Dieu et homme, et en faisant l'alliance de cette divinité, de cette humanité, il réalise ce qui n'a pas pu être fait jusqu'à présent. Et donc l'alliance, avec la nouvelle alliance scellée dans le sang de Jésus, eh bien on arrive à l'obtention de cette promesse. Et on voit bien, dans la définition que j'ai pu donner du mot espérance, que ce désir de toute l'humanité, un désir dans la foi, dans la confiance, c'est de voir se réaliser cette promesse, la promesse éternelle de Dieu faite à l'homme, à l'humanité, eh bien de faire une alliance nouvelle, éternelle et définitive. Hein, c'est ce qu'on dit à chaque Eucharistie, hein, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Eh bien, c'est cela dont il est question. Et Joseph, en prenant son épouse, il prend son épouse, c'est un signe d'alliance de prendre son épouse. Le mariage, c'est un signe d'alliance. Il prend son épouse, il prend avec lui Marie et l'enfant. Eh bien, c'est cela qui est un signe d'espérance et un signe d'alliance. Alors, si l'on regarde un peu plus en détail chacun de ces épisodes, déjà dans l'annonciation faite à Joseph. Parce qu'il ne se contente pas, bien sûr, de prendre chez lui son épouse. Il est précisé dans le récit de l'annonciation faite à Joseph que Joseph va prendre avec lui son épouse, Marie, mais quelques jours après, lorsque Jésus va venir au monde, eh bien, il est noté que il donna le nom de Jésus. C'est ce que l'ange lui avait commandé de faire, d'ailleurs, hein, on se rappelle ce récit, lorsque l'ange Gabriel, dans le songe fait à Joseph, lui annonce la naissance de Jésus, et lui commande de prendre avec lui Marie, il lui dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Ce nom de Jésus qui est Dieu sauve, Dieu sauveur. C'est Joseph qui nomme, c'est Joseph qui donne le nom. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, c'était le père qui donnait le nom à l'enfant pour reconnaître l'enfant, pour reconnaître la paternité, pour créer aussi une alliance du père avec son fils et un engagement d'élever cet enfant, de le faire grandir et de lui apporter tout ce dont il a besoin. Donc, dans le nom, dans le don du nom, il y a déjà ce désir d'accepter cette mission, d'élever, de faire grandir cet enfant et de lui transmettre tout ce dont il aura besoin pour vivre. Mais ce nom de Jésus, ce n'est pas évidemment un nom comme un autre. Hein, comme je disais, Jésus qui signifie le Seigneur sauve, Dieu sauveur, c'est déjà la mission de Jésus. Le Christ, en recevant ce nom de Jésus, il reçoit sa mission, et dans son nom, il y a ce que Jésus va réaliser, c'est-à-dire le salut du monde, le salut éternel, et c'est ce que contient ce nom de Jésus. Et donc, à travers ce don du nom, il y a aussi, pour Joseph, la participation active à la mission de Jésus. Vous voyez, l'espérance chrétienne, notre espérance à chacun d'entre nous, consiste en quoi? Je crois que notre espérance chrétienne, elle consiste en accepter de participer à la mission de Jésus, de participer activement à ce que Jésus a vécu, a réalisé pour chacun d'entre nous. La manière dont nous avons à entrer en communion avec Jésus, c'est dans la participation à sa mission, à participer à l'œuvre de la rédemption. Et c'est ce que Joseph, le premier, fait en accomplissant ce commandement du Seigneur, en prenant Marie chez lui, il scelle cette alliance nouvelle, et en donnant le nom de Jésus, eh bien, il participe à l'œuvre de Dieu, à ce salut du monde. Et on voit que, quand je disais que espérer, c'est désirer, Joseph exprime ce désir. Il exprime ce désir en prenant Marie avec lui, en nommant Jésus. Il exprime ce désir d'accomplir ce que le Messie va réaliser, de s'associer à cet accomplissement réalisé par Jésus. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose qui nous guide et qui peut nous inspirer. Et puis, une autre chose, c'est la puissance du nom de Jésus. Et en donnant ce nom de Jésus, c'est pas simplement de donner un nom comme on peut, comme tout un chacun donne un nom à ses enfants. C'est en prononçant ce nom, en prononçant le nom de Jésus, que cette prononciation a une efficacité particulière. Et si dans l'évangile de l'enfance, Joseph ne prononce aucun mot, Joseph ne parle pas dans les évangiles. Joseph ne dit rien dans les évangiles. Il n'y a aucune parole de Jésus qui nous est rapportée dans les évangiles. La seule parole, le seul mot que va prononcer Joseph d'une certaine manière, c'est en donnant le nom de Jésus. C'est en prononçant le nom de Jésus. Donc, il y a dans ce mot de Jésus quelque chose d'une grande force, d'une grande puissance, d'une grande efficacité. C'est un mot de prière. Quand on dit le nom de Jésus, quand on prononce le nom de Jésus, c'est déjà en lui, dans cette seule prononciation, une prière qui est annoncée au Seigneur. Et donc, Joseph apparaît comme celui qui va, par cette prononciation du nom, par ce don du nom de Jésus, être celui qui réalise et qui exprime cette première prière adressée à Jésus d'une certaine manière. C'est lui qui exprime cette prière à Jésus et qui place dans le nom de Jésus son espérance. En prononçant et en donnant le nom de Jésus, déjà, Joseph met toute son espérance dans ce nom pour voir se réaliser l'œuvre messianique. Ça, c'est au moment de l'annonciation faite à Joseph. Le deuxième songe où nous retrouvons Joseph lorsqu'il va fuir en Égypte, c'est, comme je disais, après le départ des mages, donc il part en Égypte, et là aussi, comme je disais, Joseph qui se lève dans la nuit, il prend l'enfant et sa mère et se retira en Égypte. Alors, se retirer en Égypte, quelle va être cette signification, se retirer en Égypte? L'Égypte, dans la pensée du peuple hébreu, bien sûr, c'est une évocation très importante. L'Égypte, c'était le séjour du peuple hébreu pendant la période d'avant l'Exode, lorsque Joseph, l'autre Joseph, un des fils d'Israël, Jacob Israël, bien, lorsque Joseph était parti en Égypte pour vendu par ses frères et que toute sa famille l'avait rejoint par la suite, et lorsque tout le peuple hébreu était en Égypte, réduit à l'esclavage, le temps de l'Égypte, c'est ce temps de l'esclavage, c'est ce temps un peu d'une certaine forme de purification avant de pouvoir faire le chemin de l'Exode, avant de pouvoir faire ce chemin où ils vont vivre le temps du désert et le temps de la constitution du peuple de Dieu. Donc, pour Joseph, en prenant Marie et l'enfant et en allant en Égypte, bien, ça va être ce temps du désert, ce temps où on se retire dans le désert, où la Sainte Famille va se constituer d'une certaine manière. Nous sommes juste après la naissance de Jésus. Il s'en va et il fuit en Égypte pour éviter la colère d'Hérode. Donc, le petit peuple constitué par Joseph, Marie et Jésus va se constituer dans ce désert tel le peuple de la première alliance qui s'est constitué aussi dans le désert, guidé par Moïse, guidé à travers le désert pour vivre l'épisode de la mer Rouge et pour ensuite, nous le verrons, rentrer en terre promise. Eh bien, c'est le temps d'une certaine forme de purification. Le temps du désert, c'est le temps de notre carême, on pourrait dire. Eh bien, voilà. Joseph vit ce temps du carême, ce temps de la purification, ce temps du désert, en prenant l'enfant, en prenant Marie, en se constituant en sainte famille comme un petit peuple, un petit reste d'Israël, eh bien, qui se retire au désert pour prendre ce temps, voilà, ce temps de la purification. Et ce temps-là, c'est aussi un temps nécessaire parce que dans toute espérance, il y a un temps qui se déroule, le temps qui se déploie. L'espérance, c'est quelque chose qui dure, qui se vit dans le temps, qui se vit dans une certaine chronologie. On est dans le temps du désir, eh bien avant qu'il y ait la réalisation de la promesse, avant que le terme ne soit obtenu, eh bien il faut passer ce temps du désert, ce temps de l'épreuve, ce temps, de la purification, qui permet d'affiner le désir, qui permet d'approfondir le désir, qui permet aussi d'approfondir sa relation avec le Seigneur. Eh bien, dans ce temps de l'Égypte, ce temps du désert, où la Sainte Famille, retirée, loin de la terre d'Israël, eh bien, il y a ce temps où on se laisse façonner, où se constituent les liens d'amour, les liens spirituels au sein de cette sainte famille pour pouvoir être prêt et préparer la mission de Jésus telle qu'elle va être lorsqu'il va retourner à Nazareth. Et ce qui est dit dans ce passage de la fuite en Égypte, en Matthieu 2, 13 à 15, il resta jusqu'à la mort d'Hérode pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète, d'Égypte, j'ai appelé mon fils. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est l'attente d'un appel, l'attente de l'appel qui doit être formulé par Dieu pour qu'une mission soit donnée. On a tous en nous un appel du Seigneur. Le Seigneur nous appelle à quelque chose, il nous appelle à devenir ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Eh bien, voilà, ce temps du désert, ce temps de Joseph, Marie et l'enfant Jésus au désert, ça va être ce temps où ils se rendent disponibles pour être appelés. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Le fils, c'est Jésus, qui va être appelé pour accomplir sa mission, la mission de salut. Mais il faut ce temps du désert, ce temps de l'approfondissement, ce temps de la maturation qui permet à l'appel d'être entendu. Bien, je crois que pour nous aussi, dans notre espérance chrétienne, il y a un temps où il faut approfondir notre désir. Approfondir notre désir du Seigneur, approfondir notre relation avec le Seigneur. Prendre ce temps long qui nous façonne, qui nous configure davantage à ce que, pourquoi nous sommes faits, et puis aussi approfondir ce temps de l'appel. Écouter l'appel du Seigneur. Prendre le temps d'être appelé par le Seigneur. Voilà. Si nous croyons que nous sommes dans une espérance de quelque chose, d'une réalisation de quelque chose en nous, eh bien, il faut se laisser appeler par le Seigneur. D'Égypte, j'ai appelé mon fils, disent les Écritures. Bien, de là où nous en sommes, Dieu nous appelle d'une certaine manière à être fils, fille de Dieu, à être plus profondément dans cette espérance chrétienne. Bien voilà, ça c'est ce temps du désert qui est nécessaire. Et pour cela, eh bien on se constitue en famille chrétienne Et c'est au sein de notre famille chrétienne, de notre communauté chrétienne, de notre peuple chrétien, comme Joseph a fait en prenant l'enfant et sa mère et en se retirant en Égypte, bien nous aussi, spirituellement, on peut se retirer aussi un petit peu au fond de nous-mêmes, spécialement dans ce temps du carême, pour laisser le Seigneur nous appeler, hein, nous appeler et faire naître en nous une espérance nouvelle, enfin faire naître en nous une espérance nouvelle. Et puis le troisième songe, ça va être le songe du retour à Nazareth. Le Seigneur va apparaître en songe à Joseph en Égypte, va l'inviter encore une fois à se lever. Joseph se leva, il prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Il entra dans le pays d'Israël. Je crois que là aussi, dans cette simple petite phrase, voilà, Joseph qui à nouveau prend l'enfant et sa mère et qui entre dans le pays d'Israël. C'est le retour à la terre promise. C'est l'enterrer dans la terre promise. C'est revivre l'expérience de l'Exode. Il y a eu le temps du désert, le temps de l'approfondissement, et il y a le temps de l'entrée en Israël, du retour vers la terre promise, telle que le peuple de Dieu l'a vécu avec Moïse, lorsqu'après le temps du désert, bien le peuple saint, le peuple de l'Alliance, justement, a pu voir se réaliser son espérance, l'espérance d'une terre promise, que le peuple de Dieu a traversé à nouveau le Jourdain pour entrer en terre promise. Eh bien là, eh bien on reprend les mêmes termes, on pourrait dire, la même thématique, après avoir constitué ce peuple de Dieu, après avoir constitué la Sainte Famille, après que Joseph ait pris l'enfant et sa mère, eh bien on entre dans la terre promise, on entre dans le pays d'Israël. Et donc voilà la réalisation de la promesse, hein, faite à Joseph, faite au peuple de Dieu, bien d'obtenir, d'aller et d'entrer dans ce pays d'Israël qui est la terre promise. Entrer dans le pays d'Israël, on pourrait dire aussi entrer dans l'espérance. Je crois que pour espérer, il faut aussi faire un acte de volonté où on entre dans l'espérance. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont parfois un peu dans la désespérance, dans le désespoir, parce que ils estiment que les choses ne vont pas, que tout est perdu, que tout est fini, que rien ne va, rien ne convient, et on n'entre pas dans l'espérance. Vous voyez, entrer dans l'espérance, ça veut dire qu'il faut faire un pas. Il faut faire un pas pour décider d'entrer dans l'espérance. C'est une décision aussi d'espérer. C'est pas simplement quelque chose de passif. Il faut accepter d'entrer dans cette espérance. Bien Joseph, voilà, avec Marie et l'enfant, il entre dans le pays d'Israël, il entre dans son espérance. Et c'est en entrant dans le pays d'Israël que tout devient possible, que tout redevient possible. La fuite l'avait éloigné pour un temps de préparation. L'entrée en terre promise, l'entrée en Israël, va rendre possible la réalisation de cette espérance des nations, de cette espérance du peuple de Dieu, de voir se réaliser le salut d'Israël, mais le salut de tous les peuples de la terre. Donc on voit bien comment Joseph, à travers ses trois songes, eh bien va déployer toute son espérance pour en voir la réalisation par ce signe d'entrer en terre promise, d'entrer dans les pays d'Israël. Et là, je crois que c'est aussi le temps de se dire que, en entrant dans cette espérance, on accepte une mission. On accepte d'être envoyé par le Seigneur. Quand on entre quelque part, ça veut dire qu'on a accepté d'être envoyé, de partir, d'aller vers une rencontre, d'aller vers des personnes, d'aller vers cette mission qui est promise, qui est demandée par le Seigneur. Et donc, c'est le temps de la mission qui s'ouvre pour Jésus qui va, une fois qu'il aura atteint l'âge requis, va pouvoir commencer sa mission. Et on est dans cette dans cette espérance de la mission de l'Église qui se réalise. Voilà, à travers donc ces trois songes, je crois que on peut voir comment se déploie justement l'espérance chrétienne. Vous voyez, le désir de Joseph d'accueillir sa mission, de prendre avec lui Marie et l'enfant, ce désir d'être avec, de faire alliance, comme je le disais, de mettre en œuvre la nouvelle alliance avec le Seigneur et avec Marie qui est signe de l'alliance, mais qui est signe de l'Église, signe de la communauté. Donc, pour chacun d'entre nous, c'est aussi ce désir d'être membre à part entière de l'Église, de faire vivre Jésus en notre sein, avec nous, le faire grandir en nous, comme Joseph a fait grandir l'enfant Jésus. Ça, c'est notre désir qui doit se déployer, qui doit grandir. Cet amour du Seigneur, ce désir du Seigneur qui doit vraiment s'élargir toujours et encore. Et puis, il y a l'acte de foi. L'acte de foi, c'est-à-dire désirer avec confiance. Et ça, Joseph, patiemment, jour après jour, il a placé sa confiance dans le Seigneur. Sans voir le résultat de cette espérance, sans tout comprendre, comme je le disais, parce que on voit bien qu'il y a des moments où il ne comprend pas, où il ne sait pas. Mais au-delà de ces doutes, on pourrait dire, au-delà de ces incompréhensions, il y a l'acte de foi qui est posé, de se dire « je crois ». Je crois parce que je suis animé d'un profond désir. Parce que je désire cette rencontre avec le Seigneur, alors je crois profondément. Et puis, il y a la réalisation de la promesse. Et la réalisation de la promesse, on en voit toujours quelque chose. Même si on ne voit pas la réalisation de la promesse totale, si on entre dans cette espérance, le fait d'espérer nous donne déjà les éléments de la réalisation de la promesse. Et je crois que justement, Saint Joseph est cette figure qui a pu mettre en œuvre tout cela. À travers simplement cette confiance résumée dans cette phrase, il prit l'enfant et sa mère. Il prit l'enfant et sa mère. Et nous aussi, essayons de faire comme Joseph, hein, de prendre l'enfant et sa mère avec nous dans notre vie. Et puis, pour conclure, il y a un dernier épisode qui ne concerne plus Saint Joseph, parce que Saint Joseph va se retirer, va disparaître, on le sait, avant que Jésus ne déploie toute sa mission. Mais au terme de la mission de Jésus, on va le retrouver sur la croix, à la fin des évangiles. Et Jésus est sur la croix et a, parmi ses dernières paroles, cette parole où il voit sa mère, près d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Ce n'est plus Joseph qui prend Marie chez lui, ce n'est plus Joseph qui prend Marie avec lui, mais c'est le disciple bien-aimé. Ce disciple bien-aimé, c'est l'Église, c'est chacun d'entre nous. Et du haut de la croix, Jésus nous donne sa mère, et nous prenons Marie avec nous. Peut-être que c'est cela le vrai signe d'espérance pour notre temps, comme Joseph qui a pris Marie avec lui, eh bien, tel le disciple bien-aimé qui a pris Marie chez lui, eh bien nous aussi prenons toujours et encore Marie avec nous dans notre prière, dans notre cœur, et ainsi nous ferons vraiment signe d'espérance pour notre monde, et ainsi la promesse et le but de toute espérance se réalisera en nous, se réalisera aussi par nous. Merci bien.